RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
PGG, les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story, c'est la troisième heure des GG. Vous avez raté les grandes gueules, la première heure, la deuxième heure, l'émission d'hier, c'est à disposition dans les podcasts. C'est sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Qui est là aujourd'hui? Nous sommes avec l'avocate Sandrine Pégan, le chef d'entreprise Emmanuel Devidier, l'enseignante Barbara Lefebvre. C'est la troisième heure des GG. Tout à l'heure, on reviendra sur un dossier, celui, vous savez, de la mort... d'Elsa Pilarski. Son compagnon Christophe Ellul a été jugé pour homicide involontaire. Vous savez, c'est l'affaire du chien Curtis. Vous vous souvenez de cette histoire? Et aujourd'hui, on doit savoir si oui ou non le tribunal de Soissons doit dire s'il faut euthanasier le chien ou pas. Donc on reviendra sur cette affaire tout à l'heure à 11h30 avec vous au 32-16. D'abord, on va parler politique parce qu'on est à un mois de la décision de justice concernant Marine Le Pen. C'est l'affaire des assistants parlementaires européens, c'est l'affaire de leur financement, ça conditionnera sa présence ou non à l'élection présidentielle et ça commence à bruisser dans les différents états-majors de ses adversaires. On va en parler, on va vous expliquer pourquoi.
Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme
Bambino Bardella. Enfin,
c'est bonne celle-là.
Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on reparle de Marine Le Pen? Parce que c'est dans un mois, c'est le 7 juillet qu'elle sera fixée sur son sort. Et comme je vous le disais, il suffit de lire aujourd'hui Le Figaro, dans les différents états-majors, on commence à échafauder les scénarios en se demandant si jamais la justice est plutôt favorable à Marine Le Pen, sera une adversaire plus redoutable que Jordan Bardella.
En tout cas, le vent pousse ce camp-là en ce moment. Je regardais le baromètre pour le point Cluster 17. 10 mois avant le premier tour de l'élection présidentielle, qui est en tête de ce baromètre? Jordan Bardella, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, Éric Ciotti et Sarah Knafou. Les 5 premières places. Donc effectivement, dans le camp du bloc central et à gauche, on doit être inquiet. Et on est particulièrement inquiet parce que commence à monter une petite musique que finalement Marine Le Pen pourrait se présenter si la justice est un peu plus clémente en appel. Et pour, par exemple, le camp d'Édouard Philippe, eh bien, on estime que Marine Le Pen est plus dangereuse. Elle est plus dangereuse parce qu'elle a plus d'expérience, elle est plus solide que Jordan Bardella. Ensuite, en plus, parce que si finalement, la surprise générale, elle peut se présenter, il y aura forcément un esprit revanchard porté par sa base militante. Il y aura un effet résurrection. Et ça, on aime bien, et les Français aiment bien quand les hommes politiques ou les femmes politiques ont un peu souffert, qu'ils reviennent
d'une
traversée du désert, etc. Et donc, aujourd'hui, Marine Le Pen peut être effectivement en position de force 7 juillet, si elle peut se présenter.
Non.
Tu n'y crois pas, toi,
non,
Emmanuel.
Évidemment que c'est la justice qui va décider, et qu'on ne peut pas faire des conjectures, il y a un secret absolu. Et c'est un dossier complexe dans le rendu de la décision d'appel. Mais si on se place dans l'alternative, ou Madame Le Pen, ou Monsieur Bardella, personnellement, je pense, dans la parole libre qui caractérise notre émission, que Jordan Bardella est un meilleur candidat. Pourquoi? Parce que Madame Le Pen, je ne veux pas dire du mal de qui que ce soit, mais est un peu usée par de multiples candidatures. Elle sortira quoi qu'il arrive, même si elle pouvait se présenter condamnée de cette affaire. Et de surcroît, d'un point de vue purement électoral, elle est incohérente puisque elle a un programme économique qui est qualifié de socialiste, social-étatiste. Là où, à l'inverse, si on ausculte la candidature de Monsieur Bardella, il a un programme plus cohérent puisque il glisse. Alors pour l'instant, il n'a pas les coudées franches, donc il veut pas créer de dissension dans l'attente de cette décision de justice. Mais il a un programme qui sera plus cohérent, une présentation électorale qui sera plus cohérente dans la perception des électeurs, puisque son programme économique sera moins social-étatiste, plus pro-entreprise, oui, plus libéral, plus moderne. Et puis fondamentalement, pour en terminer sur la synthèse qui me fait penser que Monsieur Bardella est un meilleur candidat. Il présente très bien. Il est jeune. Il a l'attrait de la nouveauté. Malheureusement, les élections, en dehors des sortants, qui ont parfois une prime aux sortants, sont souvent marquées par l'attrait de la nouveauté. Par conséquent, il est sans doute un meilleur candidat que Mme Le Pen. Il y a un dernier point tout de même. Et là, les auditeurs vont réfléchir un peu à ce casse-tête. Est-ce que, là, je vais appeler ça sa copine, parce qu'elle a 22 ans, est-ce que sa copine sera pour lui un atout ou un élément défavorable? C'est impossible à prévoir, c'est une sorte de ballon de rugby avec son origine de princesse, son côté influenceuse, sa jeunesse, son bagou, mais aussi sa maladresse.
Bah, il était déjà décrié.
On ne sait pas si ce sera un élément. En tout cas, ça sera une variable d'ajustement très importante.
Sandrine Pégan, est-ce que Marine Le Pen est une meilleure candidate que Jordan Bardella? Plus de chance?
Est-ce que tu vois les juges en appel se déjuger par rapport à la première instance quand même? Vous savez,
alors là, sévère. Tout est possible. Ouais. Mais alors,
concernant Marine Le Pen.
Oui. Est-ce que c'est politique
quand même
ou pas
condamnée.
Écoute, on n'est pas dans le dossier, tu vois. Après, c'est les éléments aussi qu'on entend dans la presse. Après, faut voir véritablement. C'est très technique, hein, quand même, hein, les faits pour lesquels elle est poursuivie. Donc, est-ce qu'ils peuvent se déjuger complètement? Ils peuvent très bien relaxer. Ils peuvent confirmer. Ils peuvent aggraver. Et c'est surtout là la question de l'inéligibilité. Est-ce que ça sera assorti ou non qu'elle soit condamnée, mais qu'elle soit assortie d'une inéligibilité? Bon, bah là, la question est réglée. Mais si on reste, ne serait-ce que par rapport au parti, le RN, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui clarifie son programme économique. Parce que ce soit Bardella ou que ce soit Le Pen, c'est que comme ils ne sont pas d'accord tous les deux sur la vision pro-entreprise par rapport à Bardella, c'est ce que tu disais, l'âge de la retraite, 60 ou 62 ans, on ne sait pas non plus. Tu as la Marine Le Pen qui est contre le rassemblement des droites et le Bardella qui, lui, au contraire, cherche à ouvrir. Ouais. Donc, on essaye de se rassurer en disant qu'on a une idéologie commune, on est pro-Russie, on est anti-immigration, mais sauf que derrière, il faut clarifier tout ça.
C'est un parti attrape-tout.
Ouais.
Barbara.
Oui, mais cette affaire, plus le temps passe, plus elle a créé aussi une forme de division au sein du Rassemblement National, parce qu'on voit bien que Jordan Bardella monte en puissance, a pris la lumière, qu'il est par ailleurs la coqueluche des médias, et voilà, et qu'il a une base de sympathie très forte dans des classes sociales et des couches sociales très variées, peut-être plus variées que celles de Marine Le Pen. Parce que effectivement, il a réussi à séduire aussi les cols blancs, les chefs d'entreprise, etc.
Il n'y a pas le nom Le Pen.
Il n'y a pas le nom Le Pen.
Il n'a pas vraiment séduit. Ah ouais, rappelle-toi, si, au MEDEF, ils avaient dit que bon, il n'y connaissait rien, donc il n'a pas
réussi.
En
même temps, moi, je veux bien les gens qui n'y connaissent rien. Mais enfin, ça fait 10 ans qu'on est dirigé par le Mozart de la finance, et vu l'état des finances publiques, si tu veux, je crois qu'il n'y connaissait rien non plus, Macron.
Et d'ailleurs, les gens du MEDEF sont assez énervés en ce moment contre.
Non, mais le problème de ça, c'est un vrai problème, parce que le fait maintenant, l'accusation d'incompétence qui peut être justifiée, hein, je dis sur Jordan Bardella ou sur Gabriel Attal ou sur des gens qui sont assez jeunes en politique, c'est justifié de dire attendez, est-ce que ces gens-là ont la bouteille, etc. Mais le problème, c'est que vous avez la jurisprudence Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui pourra vous répondre, et de Mélenchon jusqu'à Le Pen pourra vous dire, mais attendez, parce qu'on vient de se tamponner 10 ans d'un grand génie, soi-disant, l'économie, c'était son truc, il allait tout casser, il allait tout machin. Ah oui, 3000 milliards de dettes. Donc, je vais vous dire, aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec Emmanuel Macron, on va avoir énormément de déverrouillage argumentatif possible. Donc, je crois que ce coup-là de l'incompétence, voilà. On est gouverné par des incompétents, donc là-dessus, est-ce qu'on pourra faire pire? Peut-être.
Est de savoir.
Est-ce qu'on pourra faire mieux? Sans doute.
Tu sais qu'aussi, une élection, c'est une question de dynamique, de débat, d'entraînement des foules. Qui sera le meilleur
pour l'instant? La dynamique, elle est chez Bardella, puisque c'est celui qui est au premier plan.
Est-ce que c'est parce que c'est Bardella ou est-ce que c'est parce que c'est le RN? C'est plutôt le RN aujourd'hui qui est porteur
plus que Bardella. D'accord, mais enfin, il fait plus à 1 ou 2 %. De toute façon, aujourd'hui,
mais à chaque fois,
à moment où on se parle, que ce soit Bardella, Le Pen ou la chaise qui sert dans la salle de réunion du Rassemblement National, elle est élue, même la chaise. Donc voilà, le Rassemblement National aujourd'hui est en force.
J'ai pas compris la métaphore là.
Non mais je veux dire n'importe qui au RN.
Oui mais c'est le problème, c'est le deuxième tour encore une fois pour le RN.
Alors voilà, le deuxième tour, on n'y est pas.
Voilà, parce que là on parle beaucoup du premier tour. Le premier tour, il y a un socle très fort du RN. On voit bien que c'est plus de 30%, quel que soit le candidat. Au deuxième tour, c'est pas la même chose.
Voilà.
Au deuxième tour, il y a que deux candidats.
Oui.
Voilà. Et au deuxième tour, les Français disent, bon, qui je mets à l'Élysée? C'est-à-dire, une fois que, j'ai manifesté mon mécontentement, qui je mets à l'Élysée?
Oui, parce que.
Et là, moi, je pense quand même qu'il y a un avantage Marine Le Pen, Et là, du coup, son expérience. Alors toi, tu dis usure, Emmanuel. Moi, je pense son expérience, c'est-à-dire que ça fait
expérience
quand même...
de quoi?
Bah, elle est députée. Non, mais... Elle est députée. Elle a été députée européenne. Elle s'est déjà présentée.
Elle a plus la figure du chef d'État voilà, que Barlet. Elle est plus jeune.
Elle a une stature plus présidentielle. Plus et peut-être dans le monde dans lequel on vit avec les soubresauts géopolitiques, etc., les gens vont se dire on veut quand même quelqu'un voilà, qui semble un peu plus.
D'autant plus que lui sera Premier ministre. Voilà, donc c'est vraiment un ticket.
Je pense que ça plaît pour Marine Le Pen une deuxième
fois. Ce qu'on ne comprend pas d'ailleurs, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est pourquoi ils répètent en boucle tous. Que Bardella serait le premier ministre de Madame Le Pen et pourquoi Madame Le Pen est écartée comme potentielle première ministre.
Parce qu'elle a dit qu'elle voulait pas
l'être. C'est elle qui veut pas.
Mais pourquoi?
Parce qu'elle a dit qu'elle était présidente pour rien.
Bah, Jean-Baptiste, alors, bonjour Jean-Baptiste.
Pour eux, c'est eux, c'est leur cohérence.
Bonjour, Jean-Baptiste d'Ille-et-Vilaine. Qu'est-ce que vous en dites? Marine Le Pen a plus de chances que Bardella. Elle est plus redoutée par les autres formations politiques que Jordan Bardella. Dites-moi.
Alors oui, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont tous les deux redoutés par rapport à l'environnement politique qu'il y a en ce moment. Mais après, c'est vrai qu'on a tous, quand on voit tous ceux qui veulent se présenter pour 2027, c'est soit des anciens de chez Macron, ou soit ceux que ça fait 50 ans qu'ils sont dans la politique et qui disent ah je ferai mieux, mais ils ont été aux manettes à chaque fois et ils ont rien fait.
Et il manquerait plus que Bayrou revienne.
Ah oui, oh ben là, oui, ça serait le total.
Qui se représente.
Il manquerait plus que Bayrou.
Mais vous pensez que du coup, c'est inéluctable, le RN a toutes les chances de gagner ou pas?
Ah non, j'y crois pas du tout. Malheureusement, j'y crois pas parce que il y aura forcément, s'il passe au deuxième tour, même qu'il soit en face de Mélenchon, comme il y a des sondages qui disent, bon ça, les sondages, il y en a à manger et à boire là-dedans. Donc après, en fin de compte, il pourrait avoir un élan républicain comme à chaque fois, comme à chaque élection, et en fin de compte, tous les autres partis politiques vont se mettre contre le RN. Donc c'est même pas la peine d'y penser.
Jean-Baptiste, on va voir ce qu'en dit Nicolas, notre ami sapeur-pompier du Rhône. Bonjour Nicolas.
Ouais, salut les GG, comment ça va?
Ça va Nicolas.
Ça va super. Impeccable.
Plus de chances pour Marine Le Pen que pour Jordan Bardella ou pas alors?
Moi je pense que c'est pas ça qui va faire quelque chose. À mon avis, ça va pas jouer du tout. À mon avis, ce que veulent les Français à l'heure actuelle, c'est plutôt de la sécurité et de l'ordre. Et je pense que ça devient dans les demandes prioritaires. D'ailleurs, ça fait partie des besoins primaires de l'homme, à vivre en sécurité. Donc je pense que c'est plutôt vers ça qu'ils vont se tourner, quitte à faire l'impasse sur un programme économique. Mais à mon avis, je pense qu'ils vont plutôt vouloir se tourner vers ça. Donc peu importe qui ce sera, je pense à mon avis, je suis pas sûr que ça change les choses. Parce que le problème, c'est que nos politiques actuelles refusent d'évoluer en ce sens et refusent de devenir un petit peu plus fermes. Et du coup, de faire des alliances dans la crainte d'être populiste.
D'accord, mais on vote quand même pour une personnalité aussi. Voilà. Moi, je suis pas d'accord avec vous. La présidentielle, c'est très personnalisé. On vote pour quelqu'un quand même, pour son parcours, pour ce qu'il représente. Et Bardella, Le Pen, ce sont pas les mêmes. Désolé, hein. Pour moi, ce ne sont pas les mêmes.
Mais je suis assez d'accord là-dessus. Mais je pense que, enfin, je sais pas, quand on écoute les commentaires et les témoignages, j'ai quand même le sentiment que les Français recherchent plutôt de la sécurité. Peu importe, je pense qui va
proposer. D'accord avec ça.
C'est mon avis. Après,
ça vous fait passer le premier tour, mais au deuxième tour, regardez Marine Le Pen qui a été en grande difficulté face à Emmanuel Macron deux fois de suite.
Non, mais c'est comme aux courses, si on les voyait au paddock, la tournée autour, on est plus intéressé par Bardella.
Oui, parce que c'est la nouveauté.
Voilà, il est plus élancé, il a des grandes pattes.
Il y était d'ailleurs au Grand Prix de Monaco.
Après, je pense que le deuxième tour, ça sera comme d'habitude, et il y aura certainement un front qui va se monter contre ça. Mais le gros souci va se poser, c'est si on arrive à gauche au deuxième tour. Quoi.
D'accord. Mais du coup, allons jusqu'au bout du raisonnement. Oui. Admettons que ce soit inéluctable qu'on ait RN et Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire Marine Le Pen et Jordan Bardella face à Jean-Luc Mélenchon. Qui tiendrait le plus la route face à Jean-Luc Mélenchon dans le débat de l'entre-deux-tours? Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ils ont déjà débattu sur RMC avec Jean-Jacques Bourdin. Je me souviens de cette discussion, de ce débat. Là, ce serait inédit pour l'entre-deux-tours de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, il a une culture historique.
Arrêtons de le surévaluer
parce que culture historique,
je dis simplement, il a une culture historique, il a une connaissance politique que n'a peut-être pas Jordan Bardella.
Non, mais c'est un bon débatteur.
Un grand tacticien. C'est
une question de, je pense, là, d'expérience à ce niveau-là, hein, si on en arrive à ça. Pour des vieux briscards.
C'est un bon démonstrateur de foire pour vendre des faux parfums.
Encore une fois, pardon.
Bardella.
Là aussi, pardon, mais. Aucun débat n'a fait la présidentielle, à part peut-être celui de 74. Et là, c'est Alain Duhamel qui pourrait mieux en parler que moi. Mais en général, les débats ne font que conforter les positions des uns et des autres. C'est rare qu'un débat change la donne.
Oui,
le problème de Mélenchon, c'est pas le débat. Il sera peut-être très bon débat, mais le problème de Mélenchon, c'est les réserves de voix face à Bardella, parce que Bardella pourra attirer son électorat, et s'il a fait 35%, il aura déjà 35% des voix assurées, il lui faut en trouver donc 15 de plus. Et là, il aura les voix de droite et du centre-droit. Mélenchon n'a aucune chance face à Bardella.
D'autant plus qu'en 2017, lorsqu'il y a eu le débat Macron, le premier débat Macron-Le Pen,
elle s'est plantée.
Elle savait déjà quelque part qu'elle ne serait pas élue parce qu'on voyait bien le raz-de-marée de Macron. Et les médias y sont allés et ça a duré pendant des mois et des années. Elle a été pas bonne, elle était nulle.
Elle n'a pas travaillé.
Mais pendant ce temps-là, excusez-moi, elle a continué à monter. Deuxième élection, rebelote, elle est encore là au deuxième tour. Le deuxième débat, les gens pareil, ah non, elle est pas bonne, etc. Peut-être qu'elle est peut-être pas bonne dans ces débats, et encore, faut voir qu'est-ce qu'on entend par pas bonne.
Parce que Mélenchon,
Macron, dans le deuxième débat de 2022, je l'ai pas trouvé bon du tout non plus. D'ailleurs, je rappellerai qu'en fin de ce deuxième débat de 2022, il avait dit que l'enjeu de son second quinquennat, ce serait la protection des enfants. Donc vraiment, on est de mieux en mieux et de pire en pire. Oui. Et donc, Madame Le Pen, peut-être qu'elle est pas bonne en débat, mais électoralement, c'est elle qui est en dynamique depuis le début et depuis 10 ans. Hein.
Emmanuel.
Mais Nicolas, au téléphone, a très bien dit que, au départ, quel que soit l'un ou l'autre candidat, il y a une adhésion. D'ailleurs, on voit que dans les sondages, ça varie de peu de points. Mais, si on parle du deuxième tour, je maintiens que Jordan Bardella est un meilleur candidat.
Écoutez, on verra. Je remercie Jean-Baptiste et Nicolas d'avoir été avec nous. C'est qu'à l'une de nos discussions, imaginez bien que d'ici le mois de mai prochain, on en aura encore dans des occasions de reparler, bien sûr. Mais déjà dans un mois, puisqu'on a la date du 7 juillet qui est en perspective. Marine Le Pen a-t-elle plus de chances que Jordan Bardella? Oui ou non? Qu'est-ce que vous en dites? On va voir. Oui, clairement, à 53,3%. Dans un instant, on va revenir sur la mort d'Elsa Pilarski avec la responsabilité du chien Curtis. C'est aujourd'hui que le tribunal de Soissons doit rendre sa décision et peut-être se prononcer sur l'euthanasie du chien. Venez en discuter avec nous au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Il est 11h25, on continue les GG, bien sûr, avec vous au 32-16, avec Emmanuel Duvillier, Barbara Lefebvre, Sandrine Pégantier. On a beaucoup d'affaires judiciaires aujourd'hui, on regarde les dossiers. Et là, on va rouvrir le dossier de la mort d'Elsa Pilarski et Christophe Hellul, vous savez, qui était jugé pour homicide involontaire. Aujourd'hui, il y a une décision de justice qui est attendue. On est 7 ans après les faits, ça date de 2019 quasiment. Le tribunal de Soissons doit aujourd'hui rendre sa décision sur à la fois la responsabilité du prévenu, Christophe Hellul, et puis l'euthanasie du chien, le fameux Curtis.
Oui, parce que Curtis, qui a tué sa maîtresse, âgée de 29 ans, qui, rappelons-le, était enceinte du futur enfant d'Elsa Pilarski, de Christophe Hellul, eh bien Curtis est toujours vivant. Les faits se sont produits en 2019 et le parquet a requis l'euthanasie du chien qui a dévoré sa maîtresse et le tribunal doit donc se prononcer aujourd'hui, le tribunal de Soissons. Si le tribunal ordonne effectivement l'euthanasie, alors ça va pas intervenir tout de suite parce qu'ensuite il y a des délais de recours, il pourrait y avoir appel. Donc c'est pas encore terminé, donc l'exécution ne sera pas immédiate, mais en tout cas la décision est attendue aujourd'hui. Est-ce qu'il faut euthanasier Curtis?
Pour moi, c'est un non-sujet de sensiblerie. On a quand même d'autres problèmes en France et en Navarre, d'autant non-sujet que si l'euthanasie est prononcée, je pense que c'est une euthanasie non douloureuse. Donc
Oui, non, roule ma poule.
Bah oui,
non douloureuse.
On l'endort et puis voilà.
Ah, tu veux dire pour l'animal.
Pour l'animal, oui, oui. Oui,
oui. En fait, encore heureux que tu veux pas, tu veux pas le démembrer à vif.
Oui.
Oui, ou que au Moyen-Âge.
Si tu le pends, tu fais comme avec les lapins. Tu
ou, comme les procès des animaux où on tuait les cochons ou les truies qui avaient mangé des nouveaux-nés.
Je rappelle que Curtis est un pitbull.
Oui, c'est un American Staffordshire Terrier.
19 morsures hein, sur le corps.
Oui, oui, bien sûr. Bah, il l'a dévoré.
Déjà, et, d'abord, toujours une pensée pour la mort atroce d'Elisa Pilarski, qui a quand même souffert sans doute le martyr au moment de sa mort. Okay. C'est une chose.
Et qui était enceinte.
Curtis est la victime d'une. Oui, oui, Curtis est la victime de ce qu'on a voulu faire de lui, c'est-à-dire un chien d'attaque. Monsieur Élu lui faisait faire du mordant, mais plein de gens font faire du mordant à leur chien. Le mordant, c'est quelque chose qui peut être fait justement pour laisser le chien exprimer quelque chose qui fait partie de la race de ce chien-là.
Oui, sauf que Monsieur Élu, hein.
Voilà, c'est interdit. Monsieur Élu a peut-être fait faire du mordant, et d'ailleurs Elisa Pilarski participait à ces exercices de mordant, faut quand même le rappeler aussi. Donc elle cautionnait ce genre d'exercice. Il faisait du mordant peut-être en excitant ce chien. Donc pour moi, Curtis est peut-être responsable de la mort d'Elisa Pilarski.
Il l'a mordu 56 reprises.
Le responsable, il a été jugé, c'est Christophe Élul. Parce que c'est lui qui a acheté ce chien.
En circulation, toi.
Je n'ai pas dit que ce chien doit être en circulation. Interdit. Je dis que ce chien ne doit pas être euthanasié. Aujourd'hui, dans quelles conditions... Je peux finir ma phrase. Oui. Aujourd'hui, dans quelles conditions vit Curtis? Curtis qui n'a rien demandé à personne. Il n'a pas demandé d'être un American Staffordshire terrier élevé dans un élevage illégal. Non, je suis désolée.
Et vous l'envoyez à Guantanamo.
Il y est à Guantanamo. Alors justement, attendez.
Ah bah, tuons-le alors.
Il y est à Guantanamo. Tu sais dans quelles conditions il vit depuis 6 ans? Il est enfermé, H24, dans un box de 10 mètres carrés. Il n'a quasiment aucune interaction. On ne le met en interaction ni avec d'autres animaux, avec d'autres chiens.
On comprend
non,
mieux.
Depuis
on
le comprend. Temps, il aurait pu être rééduqué. Il ne l'est pas. Bon, il n'a droit à aucune...
Curtis,
je peux finir. Oui. Après, je me tairai. Oui. Il n'a droit à aucune visite. Ce chien est dans un état, et ça a été dit par les gens qui se tiennent le chenil, il est dans un état dépressif avancé, donc il est irrécupérable, ce chien.
Bah, et en plus, alors.
Vous voulez le... Eh bien, moi, je vais vous dire un truc. Alors, je vais vous dire un truc. On n'arrive pas à castrer Nordal le Landais, qui fait des gosses en prison, mais vous voulez piquer Curtis?
Oh bah, quelle
est pour moi, il n'y a pas de différence. Donc moi, je suis
sauvé. Prends-le chez toi, il va bouffer tes chats, on va rigoler.
Là, tu dérapes. Je ne t'ai pas dit qu'il fallait lâcher Curtis dans la nature. Ah bah je te dis que ce chien doit être, dans la mesure du possible, il aurait dû être
repris en main.
Réhabilité.
Non, mais tu ne peux pas comparer un être humain.
Mais maintenant, on l'a mis dans une situation de détresse absolue. C'est horrible,
mais ça charnait tout de jeu. La comparaison entre un être humain et un animal, c'est inacceptable.
Ben non, parce que pour moi, tu vois, Nordal le Landais, vu ce qu'il a fait, pour moi,
mais
il est pire que Curtis.
Non, voilà.
Avant
animal,
même que
alors.
La décision soit appliquée et appliquable, déjà, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Parce que là, au niveau de l'exécution provisoire, elle ne pourra pas être assortie par rapport à la condamnation, puisque donc, en effet, si on venait à appliquer l'euthanasie en exécution provisoire et qu'il y a appel derrière, bon, ben donc voilà, on sait pertinemment que ça ne sera pas du tout prononcé. Voilà. Maintenant, c'est quand même un chien qui vit reclus dans un chenil depuis plus de 6 ans, c'est un scellé vivant, on l'appelle
c'est
ça comme
ignoble.
Ça. C'est un scellé vivant.
C'est de la maltraitance.
Oui, c'est un scellé vivant, puisqu'il fait partie de la commission des faits. Mais moi, je suis tout à fait d'accord comme Barbara. Pour moi, il est victime d'un dressage qui a été inadapté. Et aujourd'hui, pourquoi l'euthanasier, alors que bon, on le laisse dans des conditions pas forcément très agréables, mais on le laisse confiné dans un espace adapté, et on essaye de le dresser correctement.
Donc en fait, l'argent public va financer un chien interdit en France.
C'est des associations. Tu dis n'importe quoi.
Vous avez plus de compassion pour Curtis que pour n'importe qui d'autre.
Nordal le Landais, c'est ton argent. Curtis, c'est pas ton argent. Voilà, Nordal le Landais, c'est un payé à vie.
Je ne compare pas les êtres humains et les animaux. Je suis désolé.
Toi, peut-être.
Pour moi, c'est une maladie.
Moi, je considère que Curtis est victime de ce qu'on lui a fait subir. C'est personne qui a. C'est pas la société et c'est pas Christophe Élul qui a créé Nordal le Landais. Alors que ce chien-là, c'était un chien. Il y en a plein des American Staffordshire.
Donc, si tu avais un chien aujourd'hui,
il y a des gens qui en ont et qui se comportent très bien.
C'est la génération Disney.
De le dresser, pas du tout. C'est non, je m'en fous, il faut le dresser. Je sais que ce que je dis a de l'écho auprès de plein de gens. À chaque fois, après, les gens me disent oui, vous aviez raison.
Que les gens adoptent
que
Curtis,
des gens nous appellent. Non, je peux te dire que 80% des gens qui ont des American Staffordshire Terrier, d'abord, ils ont des habilitations à les détenir et ils s'en occupent très bien. Et c'est des chiens qui peuvent être adorables. Non, ce n'est pas vrai.
C'est vrai que Curtis a l'air très, très adorable.
Mais il a été élevé comme ça.
Il faudrait qu'on écoute Rémi qui était avec nous, notre ami arboriculteur dans la Drôme. Bonjour. bonjour Rémi.
Ouais, salut les GG.
Vous avez combien de terrains autour de chez vous là?
Ah, les animaux, ça va.
Moi, j'ai 800 mètres carrés de terrain, j'ai deux malinois. Que j'ai élevé comme des chiens de famille. J'ai une petite d'un an et demi bientôt. Tout se passe très bien. Par contre, je hiérarchise les choses. C'est-à-dire
comment ils s'appellent vos chiens?
Yuna et Meiko.
Voilà, parce qu'il faut donner leur nom. Ils ont une identité. Ils ont une âme.
J'ai rien à cacher, tout va bien. Moi, si mes chiens, pour X raisons, devaient se retourner dans un contexte contre ma fille, je prendrais certaines sanctions. Par contre, cependant, pour revenir au sujet, Curtis, évidemment, c'est un chien qui a été éduqué par, pour moi, un monsieur qui était probablement légèrement déséquilibré, vu que le chien est à l'image de son maître.
Exactement.
Et j'ai l'impression, par contre, que la justice a plus de facilité à euthanasier un chien qui n'a pas demandé grand-chose qu'à s'occuper de nos pédocriminels.
Merci.
Donc, moi, je relève un petit peu tout ce qui a été dit. Pour moi, un animal reste un animal, un être humain, un être humain. Par contre, il faut être sévère et juste avec tous les faits qui sont passés. C'est-à-dire que le chien a été mal éduqué, c'est pas sa faute. Évidemment, il a dévoré, a priori, sa maîtresse avec qui il portait son bébé. Il doit y avoir sanction, mais aussi bien qu'un pédophile comme Jérôme Barrella, lui, personnellement, moi...
Jordan, elle voulait l'euthanasie aussi.
Ah bon. Surtout que ça y est, hein, Rémi. Rémi, ça y est, il est puni. Hein. De toute façon, ça y est, Rémi, il est puni. Ils lui ont pourri sa vie. Ça fait 7 ans qu'il est enfermé.
Rémi, vous inversez les choses.
Rémi, parce que finalement, est-ce que vous l'euthanasieriez, Curtis, ou pas?
Il a dit qu'il prendrait certaines sanctions.
Curtis, dans les faits, oui. Jérôme Barrella, dans les faits, oui.
Ah, les deux.
Oui. Il y en a une qui est autorisée et l'autre non.
Si on écoute Barbara, il faut transformer Curtis en vedette de cinéma en le faisant tourner dans la baisse du Gévaudan avec France 2.
Mais vous me faites rire, il y a l'irresponsabilité pénale. Ça vaut pour des mecs qui tuent des gens à coups de machette.
Tu peux pas comparer des hommes et des chiens.
Mais le chien, c'est le chien. C'est pas irresponsable
pénalement. Attention. Allez-y, Rémi.
Curtis, c'est irresponsable
pénalement. En fait, je relève les faits. Le problème, le fond du problème, encore une fois, et j'ai fait 1 milliard d'interventions chez vous, à chaque fois que la justice n'est pas bonne, et malheureusement elle est inexistante, c'est qu'elle est complètement inexistante. J'ai l'impression vraiment que l'euthanasie sur un animal quel qu'il soit, chat, chien, ce que vous voulez, est beaucoup plus facile à prononcer que des sanctions adéquates.
Oui, mais vous ne pouvez pas faire...
Non, mais
comparaison n'est pas raison.
Attention.
Je hiérarchise les choses. Un animal reste un animal, un être humain reste humain.
Rémi,
non mais vous imaginez, on est en train.
Oui.
Mais ce monde est dingue.
C'est
la justice, il n'y a pas assez d'argent pour la justice. Oui, on n'arrive pas à faire avancer les vrais dossiers.
Oui.
Et là, il y a un tribunal qui doit se mobiliser pour savoir si oui ou non il faut garder Curtis vivant. Et puis, l'euthanasie, on va faire appel. On a des préoccupations pays riches.
L'animal est un être vivant, joué de sensibilité. Désolé que la loi ait évolué et que ce soit fait un immeuble.
On aurait dû liquider sur le champ.
Oui, allez-y, Rémi, liquider sur le champ.
Moi, la justice, je vous en fais de la place, hein, tous les pédocriminels.
Oui, je sais comment vous
allez. Oui, d'accord, mais la peine de mort a été abolie en 1982.
Pas pour Curtis, apparemment.
Parce que c'est pas un être humain.
Curtis, c'est un être doué de sensibilité dans la loi.
Je voudrais poser une dernière question à Rémi. Rémi, parce que vous disiez vous-même, vous avez dressé vos chiens, là, les deux malinois.
Ouais.
Si je vous propose de prendre Curtis, vous le prenez ou pas?
Eh ben non, mais c'est pas mon
voilà,
retour,
personne n'en veut, donc...
Mais évidemment, ça fait 6 ans qu'il a été conditionné.
Ça va être un boulet, on sait pas quoi en faire, mais il faut à tout prix le garder parce que c'est
une vie émaillée. Il peut être mis dans un chenil où il y a des gens qui peuvent l'aider à au moins finir sa vie, sa vie avec un minimum d'interaction.
Et
le rééduquer aussi.
Ta résidence.
Alors, je vais te dire... Si j'avais la chance. Non mais moi je vais vous dire, de toute façon, si j'avais de l'argent, ça fait longtemps que je ferais autre chose
on sait.
Que je m'occuperais de réhabiliter des chiens et de faire un sanctuaire. Bien sûr. Mais il me fait
Curtis
passer pour une idiote. Il croit que je vais mettre Curtis dans mon salon sur mes genoux. Je suis pas débile, non. Évidemment, avec des éducateurs, avec des gens qui peuvent essayer de le réhabiliter un minimum. Mais vous l'avez rendu dingue en mettant
Curtis face à Barbara.
Tu prendrais Curtis et Bruel
face à Curtis.
C'est nous qui l'avons rendu dingue maintenant.
Je pense que Curtis, il flippe.
Écoutez, moi, vous savez que
ces chiens sont dingues.
Non, mais moi, je suis désolée. Encore une fois, je peux trouver. Mais on les dresse à nouveau pour les rééduquer.
C'est pour ça qu'elle est interdite, cette race.
Pas du tout. Bon, alors, déjà, attendons la décision.
Tania Zé Curtis, non, je remercie Rémi.
D'ailleurs, il l'avait acheté pour
merci,
ça.
Merci à Rémi de sa fidélité.
Mais pas du tout, il l'a rendu dingue. Oui.
Curtis, euthanasier, oui ou non? On va voir.
Non,
54,8.
Les gens ont plus de compassion pour un chien.
C'est une victoire. C'est
pour
leurs
enfants. Et que pour Bruel.
Oui, dans exactement. Un instant, dernier sujet de discussion. Dernier sujet de discussion avec vous. Ce sont ces municipalités qui multiplient les couvre-feux à l'approche de la Coupe du Monde. Là maintenant, c'est Toulouse. Couvre-feu pour les mineurs, en leur disant les soirs de match, les mineurs, pas dans la rue après les matchs. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir sur les réseaux sociaux, du coup, ça déclenche quoi ? Des appels de bon nombre de mineurs à dire mais nous si on veut fêter les victoires on ira quand même. 32-16 pour en discuter avec les GG.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Il est midi moins le quart, on a un dernier petit sujet de discussion à voir avec vous, bien sûr, au 32-16 en direct sur RMC, RMC Story, avec Emmanuel Devilliers, Sandrine Pégan et Barbara Lefebvre. Ce sont ces couvre-feux qui commencent à se multiplier à l'approche de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, elle démarre ce soir. Alors ce soir, c'est Mexique-Afrique du Sud.
Ça devrait aller.
C'est à 21h, c'est au stade Azteca de Mexico.
C'est ton
jamais. Ensuite, il y aura les différentes rencontres qui vont arriver, rencontres de l'équipe de France, rencontres d'équipes d'Afrique du Nord, d'Afrique, de différents continents. Et les maires disent, oulala, nous, on veut pas d'incident avec les supporters. Et donc, du coup, ils mettent en place des couvre-feux. Le dernier en date, c'est du côté de Toulouse. Il envisage, le maire de Toulouse, est toujours pareil pour les mineurs. C'est-à-dire à la fin des matchs, pas de sortie pour les mineurs non accompagnés.
Oui, un couvre-feu sera appliqué avec discernement, dit-on, de 22h à 5h du matin pour des mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés d'un majeur dans le centre de Toulouse. Ce que dit Jean-Luc Moudin, le maire réélu d'Hiver Droite de Toulouse, précisant que le dispositif concerne seulement des matchs à risque sélectionnés en lien avec la préfecture. Alors, quels sont ces matchs à risque ? Ce n'est pas Mexique-Afrique du Sud. A priori, ça devrait être assez calme. C'est les matchs de l'équipe de France, c'est les matchs aussi qui peuvent concerner l'Algérie.
Oui, le continent africain.
Où des débordements de joie peuvent malheureusement devenir des débordements. Peuvent devenir de la casse, des émeutes, etc. Ça peut déraper, comme on l'a vu malheureusement après la victoire du Paris Saint-Germain. Dans 71 villes, notamment à Toulouse, il y a eu des dégâts. C'est pour ça que le maire de Toulouse prend cette mesure. Il a raison ou pas ?
Ah oui.
Oui, absolument, c'est de bon sens. On peut plus tolérer ce qui se passe dans le cadre des après-matchs. Et je pense qu'il faut aller plus loin, on l'a déjà dit sur ce plateau. Plutôt que 16 ans, c'est plutôt 18 ans.
Carrément.
Oui. Non, mais la 16 ans.
Oui, parce que 16 ans, c'est ni fait ni à faire.
Et tu pénalises pas tout le monde pour quelques.
Mais de toute façon. Imbéciles.
Non, parce que il faut savoir qu'on rentre en période touristique aussi, de haute saison, en particulier à Paris. Il suffit de se promener vers la Tour Eiffel, par exemple. Vous avez énormément de touristes du monde entier. On peut pas offrir une France avec des affrontements. Enfin, c'est un désinvestissement d'image. Outre le problème des forces de l'ordre, des commerces attaqués et de toutes ces exactions qui ne sont pas condamnées. Il y a eu 870 gardes à vue. Il y a eu que 3 prononcés de prison. Et encore personne n'y est allé.
Parce que c'était des primo-délinquants.
Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc, il faut maintenant prendre le problème à la racine. On fait un couvre-feu. Et vous verrez que si la France monte très haut dans la compétition, ce sera un couvre-feu plus limité à 16 ans ou 18 ans. Ça risque d'être un couvre-feu général.
Ah bah, c'est faire l'ambiance.
Oui, mais alors là, c'est pas... Pardon,
oui, mais c'est comme ça. Nécessité fait loi.
Mais de toute façon...
Nécessité fait loi.
Emmanuel, les mesures de M. Moudin, elles sont ni faites ni à faire, parce que c'est un mineur de moins de 16 ans non accompagné. Oui. Il suffit qu'il vienne avec une bande de copains de 20 ans et de 21 ans, comme on les a tous vus.
Par son représentant légal.
Ah non, ils te disent non accompagné d'un majeur.
Non, non,
ah, il peut être avec ses copains. Oui. Alors s'il vient avec ses copains qui ont 21 ans et qui sont prêts à tout casser, et lui il dit moi j'ai 16 mais je viens avec mon copain qui en a 20, bah donc il tient pas son couvre-feu. Ce qu'il fallait faire, c'est un vrai couvre-feu, mais pas des trucs de demi-mesure, c'est tout. Oui. Alors où on fait, où les gens sont dans la rue,
où ils sont pas dans la rue avec des mesures liberticides.
Mais liberticides de rien du tout. Enfin, si. On doit protéger la liberté des gens.
Un gamin de 14 ans, il doit pas être dehors.
Tous les gamins de 15 ans. Non, mais là, on parle de faire des matchs.
Eh ben oui, mais à Toulouse, ça a coûté 45 000 euros. Oui, mais à Toulouse, les dégâts de la dernière
fois. C'est pas tous les gamins de 15 ans ne cassent pas. C'est, voilà. On est incapable.
Ah, voilà.
D'attraper, de sanctionner durement ceux qui cassent, on emmerde tout le monde. Je trouve que c'est une drôle de façon de faire, voilà.
Et moi, j'étais dehors.
Drôle de pédagogie.
Moi, j'étais dehors pour la demi-finale de la Ligue des Champions.
Oui.
Je sortais d'un dîner, j'avais complètement oublié que c'était, je suis pas très foot, moi, dès qu'il y a plus l'OM. Bon, pardonnez.
Donc ça va.
C'est bon.
En général, effectivement, ça va pas jusqu'en demi-finale.
C'est petit, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on reviendra.
Tu m'as tellement tendu la perche.
On reviendra fort. Bref, toujours est-il que donc je sortais du restaurant pour pouvoir rentrer chez moi, donc tout était fermé, etc. Donc obligé de rentrer pédestrement. Et ben je ne voyais que des gamins qui avaient 12, 13 ans, 14 ans, qui étaient habillés tout en noir, cagoulés et qui étaient déjà en train de nous insulter.
Faut les arrêter, ceux-là.
Et ben oui, il faut les arrêter, mais c'est pour dire que le couvre-feu, ils n'ont pas à être dehors à partir de 22h, 23h.
Mais il y a plein de gamins qui, si l'équipe de France vient de l'équipe d'Algérie, etc., ils ont envie simplement célébrer, c'est l'été en plus.
C'est à 22h,
ça va, ils sont en vacances.
Excuse-moi, t'es gentil, on est en France, d'accord ? Donc moi, si l'équipe d'Algérie gagne, tant mieux pour l'équipe d'Algérie, mais je n'ai pas à accepter que dans les rues de Paris, on ait tous les gamins qui nous viennent de certains quartiers. Ben non, je suis désolée.
Ils ont le droit de fêter la victoire. Et quand le Portugal, si le Portugal gagne, t'auras des Français d'origine portugaise qui seront dans la rue avec leur drapeau et qui vont aller sur les champs.
C'est bizarre, mais là, on parle que des matchs à risque. On parle pas de tous les matchs. On parle des matchs à risque.
On peut pas fêter ça chez soi comme on le faisait dans le temps normalement.
Oh bah non,
et tout casser chez soi.
C'est mieux de venir emmerder le monde.
Dans le temps, la Coupe du Monde, c'était un événement. Moi, j'appartiens à une famille de passionnés de foot. Le grand fantasme, c'était d'acheter une télé couleur. Et on n'avait pas besoin d'aller casser.
Vous l'avez
c'est
eu finalement
grave.
Vous l'avez eu quand même.
Emmanuel, c'est pas grave, c'est Nicolas qui paye derrière.
Là, Emmanuel, il a posé une bonne question. Pourquoi effectivement il y a besoin aujourd'hui d'exulter, de jouer, de montrer sa joie dans la rue, en sautant partout, etc. Ouais. Avant, c'était pas le cas quoi. Quand l'équipe de France jouait.
Ce qui est
intéressant de voir, c'est ce que disent des policiers aussi, en disant couvre-feu ou pas, ces jeunes, ils sortiront avec leurs copains plus âgés et ils feront la fête quand même.
Ils sortiront avec leurs mortiers.
Ils braveront
l'interdit.
C'est un prétexte pour tout casser, pour voler.
Mais c'est pour ça que le couvre-feu, il est mal rédigé, avec un représentant légal.
Donc,
c'est la meilleure des choses.
Non, mais ce qu'il faut, c'est des caméras de surveillance. Des caméras de surveillance, reconnaissance faciale, et t'as pété l'abribus, ta famille va payer l'abribus. Quand on en aura fait bien comme ça, une bonne centaine ou un bon millier, ils arrêteront de descendre.
Pas avec des prélèvements sur des allocations fantasques, avec la saisie du véhicule, saisie des meubles immédiatement.
Bien d'accord.
Julien, bonjour.
Donc, pas besoin de
Salut Julien, qu'est-ce que vous en dites de ces couvre-feux là qui se multiplient?
Je pense que toute personne qui est opposée à ce genre de couvre-feu, c'est un fou, un irresponsable.
Voilà.
Parce que laisser un gosse de moins de 16 ans dans la rue tout seul à 23 ans, c'est une folie pour son gosse. En tout premier, franchement, laisser ses enfants à 23 heures dans une grande ville tout seul ou avec d'autres.
Non, mais on parle de soir de match.
Oui, des matchs à risque.
C'est pas en bas de la maison à 23 heures. C'est tout seul dans les rues, soir de match ou pas soir de match. Quel que soit le jour de l'année.
En général, ils sont pas tout seuls, ils sont avec leurs copains.
J'ai un ado de 15 ans. S'il veut aller au cinéma, je le mène au cinéma. Je le récupère au cinéma.
Il va pas tout seul à 15 ans.
Ben non,
pas du tout.
T'as vu le monde dans lequel on vit. Bravo Julien.
Et puis je vais vous dire.
Mais c'était pas la même époque.
Attends,
moi je suis peut-être vieux joueur, j'ai 15 ans. Mon gosse à 23h, il est au lit.
Mais oui.
Bravo.
C'est un papa responsable.
C'est un père qui sait éduquer ses enfants.
Non, mais attendez, on parle de l'été, on parle de soir de match. S'il y a une bande de jeunes de 15 ans, des copains qui veulent simplement célébrer la victoire de l'équipe de France, vous trouvez ça insupportable?
Oui, mais t'en as combien qui veulent simplement fêter, s'en casser? Il y en a pas beaucoup. Donc malheureusement, on est obligé d'en arriver là.
C'est dangereux parce qu'on n'arrête pas ceux qui sont dangereux. C'est pour ça que
arrêtez-les alors.
Moi, je préconise la tolérance zéro pour les emmerdeurs et laisser les mômes de 15 ans.
Mais pour l'instant, c'est impunité générale.
Tu devrais le dire.
Les GG, je peux vous dire deux choses?
Ah bah avec plaisir.
Oui, Julien. Voilà.
J'ai travaillé pendant 20 ans en la nuit, le soir et la nuit. Je peux vous dire que dans le centre de Marseille, les gamins, ils ont pas 16 ans, ils ont 8 ans.
Ils ont 10, 12 ans.
On parle pas de ça. 15, ils sont dans la rue.
Bon, tout d'accord, mais là,
la
il
première
y reste
chose que je voulais vous dire. Ouais. La deuxième chose, moi, j'avais 16 ans, 98, 15 ans exactement. En 98, quand on a gagné la Coupe du Monde. Eh ben, je suis sorti avec mes parents, mon père avec Harry. On s'est régalé, on a fait la fête avec tout le monde. Il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de débordement. Oui. C'était la fête. Les gens, ils sont montés, comme j'ai vu le député. Alors, ils ne sont pas montés sur le capot, mais ils sont montés sur les garde-corps de la voiture. Et tout le monde faisait la fête, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi en 2026, ça ne se passe plus comme ça. Eh bien, mon gosse, je peux vous garantir que pendant le mondial, même si on gagne la finale,
il sortira pas, ou il sortira avec vous.
Il sortira avec moi, et si les collègues veulent venir, on sortira tous ensemble.
Oui, ben
bravo, Julien.
Faites gaffe quand même.
Julien, merci.
Julien, voilà quelqu'un de responsable. Mais oui.
Julien, parent responsable qui réagit. Oui. Merci d'avoir été dans les GG, mon cher Julien. On se retrouve demain entre 9h et midi. Merci les grandes gueules.
Merci.
Bonne journée, bon retour. Si, oui, ben Estelle, elle est là. Regarde, elle papote.
Ah ben
Estelle,
voilà, parce qu'elle ne voyait pas.
Elle discute avec Juliette Briens, tranquille.
On t'intéresse plus, Estelle, c'est ça?
Bonjour.
J'étais tellement fascinée que j'écoutais, je ne voulais pas vous couper.
Bonjour ma chère.
Bonjour les GG, bonjour Alain. Dans un instant, on va parler des suites de l'affaire Liana. Est-ce qu'il faut un fichier public des pédophiles? On en débat avec vous, appelez-nous au 32-16. On parlera bien sûr du coup d'envoi de la Coupe du Monde, ça y est, enfin, c'est ce soir. Mais est-ce que porter un maillot de foot dans la rue ou au travail, c'est beauf ou c'est cool? Tiens, Alain, Olivier, vous pourriez venir en maillot de foot.
Alors moi, j'étais avec le maillot de l'équipe de France ici sur ce plateau pour la dernière Coupe du Monde.
Ah bon?
Ouais, bah pas tous les jours, mais c'était pour la finale.
Vous trouvez ça cool, vous?
Ouais.
Ah oui.
Nous aussi, pour les femmes. Pour les femmes aussi.
À l'école, en classe, les garçons, ils ont les maillots.
Non, mais moi, j'aime pas du tout. Enfin, en fait, je trouve que ça dépend du maillot.
Clin d'œil.
Non, mais le mec porte un maillot vintage de la Norvège. Là, je dis OK, c'est looké.
Non, mais moi, c'était les maillots. J'aimais bien ceux de 2000. C'était 2018.
2002, quand on a gagné 2018, sinon, on a perdu en finale 2022.
En 2018, j'aimais bien leur maillot.
Voilà, mais sinon, il faut que ce soit un peu vintage. C'est juste un maillot de
Est-ce qu'on peut mettre des claquettes aussi avec le maillot?
Ah là là.
Bah, ouais, la tenue, c'est normal.
Voilà.
Malheureusement. Bon, enfin, nous en parlerons. À midi et demi, dites-nous si vous êtes venu au bureau ou si vous êtes artisan sur un chantier, tiens, avec un maillot. Et quel est votre maillot préféré? On en parle à midi et demi. On parlera également des épreuves écrites du bac français. Ça y est, c'est aujourd'hui. Ouais. Les enfants ont planché pendant 4 heures, ou peut-être un peu moins, sur leurs épreuves de français. Mais est-ce qu'il faut encore pousser nos enfants à avoir le bac à tout prix? Est-ce que ça sert encore à quelque chose d'avoir le bac?
Oui. Oui, pousser à avoir une mention surtout, parce que le bac, c'est facile. Bah, si t'as pas de mention, ça sert à rien.
T'as plein de gens célèbres qui n'ont pas le bac, en fait.
Moi, j'ai eu le bac sans mention. Regarde où j'en suis.
Exactement. Et puis, attendez, ça, c'est mon sujet préféré. Le mois de juin, vous savez que c'est le mois des kermesses et des fêtes d'école. Mais pour vous, la kermesse du petit dernier, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis? Vous savez, vous arrivez à l'école à 8h et il passe à 13h30. Bon, bah voilà. Et vous tenez un stand de cake.
Ah, je connais pas.
Bon, bah écoutez, on en parlera ça à 14h.
Tu as tenu des stands de cake?
Non.
Allez, bonne émission avec Estelle au 32-16.
RMC, midi 15h. Estelle midi.